Alors, Pasteur Marie a parlé de Genèse chapitre 12, on va le voir ensemble tout à l'heure. Les grands esprits, le grand esprit nous rencontre. Une anecdote. Vous savez peut-être que Pasteur Marie-Hélène et Pasteur Elisabeth ont commencé une maison d'édition chrétienne qui s'appelle Lettres aux Nations il y a 15 ans de cela. Et cette maison d'édition, elle a notamment pour but de diffuser dans la francophonie des auteurs connus et reconnus qui enseignent sur les thèmes de la grâce, de la foi et également de la prospérité selon les Écritures. Selon les Écritures. Et il se trouve que, en ce qui me concerne, c'est la première fois maintenant, on les aide depuis quelque temps, et ma femme et moi, et depuis quelque temps, on essaye de diffuser cela dans la francophonie, dans de nouvelles librairies, etc., etc. Et puis je discutais avec une dame qui habite en Belgique et qui me dit, mais vous savez, j'ai essayé de me procurer l'un de vos ouvrages dans une librairie en Belgique, et quand ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas, je leur ai dit, bah, mettez-vous en rapport avec cette maison d'édition parce que ce sont d'excellents livres et vous allez pouvoir les diffuser. Et lorsque la libraire s'est connectée au site internet, elle a ensuite contacté la dame pour lui dire, vous savez, je ne vendrai pas ces livres-là. Ah bon? Pourquoi? Eh bien parce que dans ces livres-là, il y a certains auteurs qui me déplaisent et dont je ne partage pas la doctrine, notamment parce qu'ils parlent de la prospérité selon les Écritures. Et la dame a dit, la cliente a dit, écoutez, est-ce que vous pourriez m'envoyer un email pour détailler un petit peu, elle devait partir, elle ne pouvait pas rester trop longtemps, mais pour détailler un petit peu votre position, savoir sur quoi vous vous fondez pour ne pas être d'accord avec cela. Et ce que la dame lui a envoyé, c'est trois fichiers joints en PDF, trois articles qu'elle avait glanés à droite et à gauche, et qui tentaient de contredire ce en quoi nous croyons. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est que dans aucun de ces trois articles, il n'y avait le moindre verset biblique. C'est-à-dire que ces gens disaient, ah, mais nous ne voulons pas du message de tel prédicateur parce qu'un jour il a dit ça dans un de ses livres. Et on prend une phrase totalement sortie du contexte. Ou bien, ah, mais non, mais telle autre prédicatrice, sa doctrine s'apparence plus à de la psychologie qu'à des écritures, donc. Mais il n'y avait pas de verset. Il n'y avait pas de fondement scripturaire. Et ça m'a amené. D'abord, ça m'a énervé. J'ai failli prendre un vol EasyJet. Et puis, je me suis dit, non, reste là. Tout va bien. Mais j'aime la contradiction. Je fais un métier de contradiction et j'aime la contradiction parce que ça m'impose de me demander en quoi est-ce que je crois et pourquoi est-ce que j'y crois. Sans quoi, c'est de l'endoctrinement. Sans quoi, on gobe. Ah, mais le pasteur m'a dit que. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que tu saches en quoi tu crois et il faut que tu saches pourquoi tu y crois. Il faut que tu saches ce que disent les Écritures pour que ta foi soit fondée sur la parole de Dieu et ni sur la tradition, ni sur une atmosphère, ni sur une relation avec tel ou tel être humain, sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit et qu'est-ce qu'elle ne dit pas? Amen. Alors je vous propose aujourd'hui qu'on lise les versets. Qu'on voit ce que dit la parole de Dieu ensemble. C'est la raison pour laquelle je vous dis, sortez vos Bibles. Les versets vont être affichés. Mika, j'espère que tu es prêt, derrière l'ordinateur là-bas, parce qu'il y a des versets aujourd'hui. Commençons dans Hébreux chapitre 8. Hébreux au chapitre 8, il nous est dit au verset 6. Hébreux chapitre 6, verset, pardon. Au chapitre 8, pardon, verset 6. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur. Alors, il est question des sacrificateurs de l'ancienne alliance, d'accord, tels que les Juifs pratiquent l'alliance avec Dieu et les commandements qu'ils ont. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce, d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. On a deux mots très importants ici, alliance et promesse. Nous voyons qu'il y a des promesses qui ont été faites qui sont meilleures que les précédentes. Et sur la base de ces promesses, Dieu a passé une alliance, on va voir avec qui, on va voir comment, qui est meilleure que la précédente. Il y a des promesses, il n'y a pas une alliance pour commencer, il y a des promesses. Et ces promesses fondent une alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? C'est un contrat. Une alliance, normalement, c'est un engagement réciproque. Tu fais ça et moi je fais ça. Il y a toutes sortes d'alliances. Ça peut être un mariage, ça peut être une alliance militaire pour un pays, ça peut être une alliance, un pacte économique avec un pays, ça peut être une alliance culturelle entre deux universités. Si tu fais ça, moi je fais ça. Mais là, ce qui fonde, c'est l'initiative de Dieu, ce sont ses promesses. Ok ? Mais retenez qu'il est question d'une meilleure alliance. Il y en a donc au moins deux. Celle-ci, qui est meilleure que là où les précédentes. Vous me suivez ? Maintenant, Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Il nous est dit au verset 28. Pendant qu'il, chapitre 26, pardon, 26-26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés ». Donc on voit que cette nouvelle alliance, et on va voir plus en détail de quoi il s'agit, elle a lieu sur la base du sang de Jésus qui a été versé et qui était préfiguré ici, symbolisé par le vin qu'ils ont bu ensemble et que nous continuons de boire aujourd'hui lors des Saintes Cènes, ou des, appelez ça comme vous voulez, le repas du Seigneur, la communion. Nous prenons le fruit de la vigne en souvenir de cela. Mais c'est un symbole de cette nouvelle alliance qui est meilleure que l'ancienne. Meilleure que l'ancienne, et on va voir pourquoi. Et qui est fondée sur le sang. Je ne sais pas si on aura le temps de le voir, mais toutes les alliances dans la pensée de Dieu s'accompagnent du sang. Une alliance, c'est fondée sur du sang. Comme d'ailleurs le mariage d'après les Écritures. C'est fondé sur du sang. Et là, l'alliance dont il est question, c'est le sang de Jésus qui a coulé. Et elle est meilleure que l'ancienne. Il dit la nouvelle alliance, comme s'il s'adressait à des gens qui savaient de quoi il parlait. Il n'a pas détaillé ce que c'était que cette nouvelle alliance. Il a dit voilà, ça y est, c'est la nouvelle alliance. Ce qui veut dire que les gens de l'époque, les disciples qui prenaient le repas avec lui, savaient de quelle nouvelle alliance il s'agissait. Regarde avec moi dans Jérémie au chapitre 31. Jérémie au chapitre 31. Ça veut dire que ses contemporains attendaient une nouvelle alliance. Ils en avaient déjà une, mais ils en attendaient une nouvelle. Jérémie 31, verset 31, il nous est dit, voici que, donc c'est un prophète Jérémie de l'Ancien Testament, des centaines d'années avant le repas que Christ a pris avec ses disciples. Et avant que son sang ne coule à la croix, des centaines d'années auparavant. Il nous a dit « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. » Vous le lisez comment ? Une alliance nouvelle. Qu'est-ce que c'est que cette alliance ? Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Autrement dit, cette alliance nouvelle n'est pas comme l'alliance que Dieu a passée avec Israël au mont Sinaï et qui est la Torah, le don de la Torah aux hommes, avec toutes les lois et les commandements qui sont à l'intérieur, 613 au total. Pas 10 commandements, 613 commandements à respecter. Et ça va des prescriptions alimentaires à la manière dont, à la prière qu'il faut faire quand on sort des toilettes. C'est très, très pointu et c'est omniprésent. Le nombre de pas que l'on peut faire, parce qu'il y a la loi et il y a toute l'étude rabbinique derrière. Le nombre de pas que l'on peut faire le matin avant, en se levant du lit, avant de devoir commencer à prier. Et Dieu dit ici, non, cette alliance ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs ancêtres. Eux, ils ont violé mon alliance alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Ce qui veut dire que l'alliance qui avait été passée avec Israël était une alliance bilatérale. Dieu s'engageait à faire certaines choses, mais tu t'engageais à faire certaines choses également. Or, cette alliance a vrillé, on pourrait dire, parce que eux n'ont pas fait ce qu'ils devaient. Vous me suivez ? Ils ont violé cette alliance. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là. Vous dites, oui, mais alors c'est pour les Juifs, pas uniquement. Parce que vous relirez dans le Nouveau Testament les démonstrations et les explications de Paul sur le fait qu'Israël ne se limite pas au peuple circoncis. Israël, au sens large, c'est les croyants. Vous relirez notamment l'Épître aux Hébreux à ce sujet. Voici l'alliance. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. » En effet, ça veut dire voilà ce qui explique ce qui précède. Pourquoi est-ce que tout le monde connaîtra le Seigneur ? Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Dans une autre version, je pardonnerai leur faute et je ne me souviendrai plus de leur péché. Ce qui veut dire que cette nouvelle alliance est fondée sur un acte initial qui est une volonté de Dieu, qui est souverain, qui a décidé qu'il en sera ainsi. Je pardonne. J'efface leur faute. Je ne me souviens plus de leur péché. Sur la base de cette décision de Dieu, alors la nouvelle alliance peut commencer. Alors, il peut venir inscrire ses lois dans notre cœur, à l'intérieur de nous. Vous comprenez ? Ah, c'est ça la base de la nouvelle alliance. Bien. Exode chapitre 24. On remonte un peu dans le temps au fur et à mesure. Exode chapitre 24. On remonte des centaines d'années auparavant. Verset 8, il est dit « Moïse prit le sang » donc on parle de la première alliance cette fois-ci. On est sur le mont Sinaï. Dieu est en train de passer alliance avec le peuple juif. « Moïse prit le sang de l'alliance. » Il prit le sang et en aspergea le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ses paroles. » Donc vous voyez que même la première alliance a été inaugurée, scellée, je dirais, par du sang, en l'occurrence du sang animal. Ça, c'était la première. La nouvelle alliance annoncée dans Jérémie s'est accomplie, a démarré avec Christ qui a versé lui aussi son sang, pour nous. Quelle est cette nouvelle alliance ? Il pardonne nos fautes, il oublie nos péchés, il inscrit à l'intérieur de nous ses lois dans notre cœur. Bien. Éphésiens chapitre 2. Au verset 11, il nous est dit, à partir du verset 11, il nous est dit « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre chair, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine. » Et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Voilà le portrait de quelqu'un qui n'a pas d'alliance avec Dieu, qui n'est pas au bénéfice encore de ce que Christ a fait. Voilà comment on est avant Jésus, destiné à la colère. Mais Dieu est riche en compassion. Ce qui est intéressant, parce que ceux qui pensent que Dieu est riche en colère, c'est antinomique là. C'est pas parce qu'il y a une colère de Dieu que Dieu est colère. En revanche, il nous est dit, il est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes. Donc je vous rappelle que l'Épître aux Éphésiens a été écrite après le sacrifice de Christ. Là, Paul est en train d'expliciter ce que c'est que cette nouvelle alliance. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pas rien. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Cette nouvelle alliance n'est pas fondée sur nos œuvres. Elle n'est pas fondée sur nos mérites. Elle n'est pas fondée sur nos efforts. Elle n'est pas bilatérale. il n'y a pas d'engagement de notre part. Est-ce que Dieu t'a demandé ton avis pour envoyer Christ à la croix ? Non. Est-ce qu'il t'a dit que le sacrifice de Christ serait à ton bénéfice si seulement tu respectes ? Non. C'est unilatéral, c'est souverain de sa part. Il a décidé de verser le sang de cette nouvelle alliance pour que nos péchés soient pardonnés et nos fautes soient oubliées. Amen. En réalité, il nous a dit, c'est lui qui nous a fait, et pas l'inverse. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. Nous n'avons pas été créés en Jésus-Christ grâce à nos œuvres bonnes. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Bonne pour qui ? Bonne pour moi déjà. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est pourquoi, verset 11, souvenez-vous. Deux fois il dit souvenez-vous. Souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez autrefois quand ? Avant la nouvelle alliance. Vous, pas forcément toi Jean-Pierre. Là on parle de, je ne sais pas quel âge t'as, mais moi je ne te ferai pas l'affront de prétendre que ça te concernait à l'époque où ça a été écrit. Mais vous, je dis Jean-Pierre, ça pourrait être d'autres, hein, ne me regardez pas comme ça. Je sais qu'il ne m'en voudra pas, lui. Vous qui, vous tous qui lisez ces lignes, autrefois, vous étiez, c'est-à-dire avant la nouvelle alliance, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps, par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez, c'était quoi cette ancienne alliance pour nous qui n'étions pas juifs ? Sans Messie, exclu du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Souvenons-nous que les gens qui n'ont pas entendu l'évangile sont exactement comme ça. Aucune alliance avec qui que ce soit, aucune espérance, aucun Dieu dans le monde. Quand le médecin dit « vous êtes condamné », vous êtes condamné. Aucune espérance. Quand le banquier dit « je clôture le compte maintenant », il clôture le compte. Aucune espérance. Quand le feu s'approche de chez toi et que tu ne vois pas rappliquer les pompiers, aucune espérance. Mais maintenant, verset 13, et ce maintenant, mes amis, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix. Retenez bien ce mot paix. Retenez bien cette expression, vous qui étiez loin, autrefois, vous étiez proche. Et regardez avec moi dans Ésaïe 56. Cette nouvelle alliance et toutes les explications qui en sont données dans le Nouveau Testament font systématiquement référence à l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que Dieu a bâti une alliance avec les Juifs sur le mont Sinaï, mais il a annoncé par les prophètes peu de temps après, ce ne sera pas la dernière alliance, il y en aura une nouvelle qui arrive, qui est meilleure que celle-ci. Et je vais vous donner l'eau à la bouche, dit-il par les prophètes, vos péchés seront oubliés, vos fautes seront pardonnées. J'inscrirai mes lois non plus sur une tablette de pierre, mais dans votre cœur directement. Ésaïe chapitre 56, un autre prophète, il nous est dit au verset 3 que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des eunuques respectent mes Shabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, j'aurais beaucoup à dire sur la circoncision, sur les Shabbats, sur tous ces concepts que l'on est en train de voir, mais ils sont explicités dans l'Épître aux Hébreux. Tels qu'ils étaient pratiqués sous l'Ancienne Alliance, et qu'ils sont toujours pratiqués sous l'Ancienne Alliance, ils ne sont que des types et des ombres de leur réalité dans la Nouvelle Alliance. Par exemple, la circoncision physique sous l'Ancienne Alliance, et qui continue d'avoir lieu aujourd'hui, est en réalité un type et une ombre de la circoncision du cœur dont il est question sous la Nouvelle Alliance. Le Shabbat dont il est question sous l'Ancienne Alliance est en réalité un type et une ombre du repos dans lequel nous pouvons rentrer en Christ. Vous relirez l'Épître aux Hébreux à ce sujet. Et il nous est dit, il reste donc un repos de Shabbat pour ceux qui entrent dans ce repos. Et donc ici, il nous est dit, donc s'ils respectent mes Shabbats, etc., je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles, une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Et lisez bien verset 6. Quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour lui rendre un culte. Vous savez que si vous étiez non-juif à l'époque du temple, vous ne pouviez pas rentrer dans certaines parties du temple. Vous pouviez rentrer sur le parvis, mais vous ne pouviez pas aller plus loin, il y avait un mur qui vous empêchait de rentrer avec un garde à l'entrée. pas d'alliance, pas de promesse, pas de Messie, sans Dieu, sans droit de cité en Israël. Vous étiez un touriste, ni plus ni moins. Et ici, il nous est dit, quant aux étrangers, parce qu'il y avait des gens qui voulaient adorer Dieu. Ils voulaient rentrer, ils ne pouvaient pas. Alors ils restaient sur le parvis. Quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le Shabbat au lieu de le violer, qui resteront attachés à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Déclaration du Seigneur de l'Éternel, de celui qui rassemble les exilés d'Israël, j'en rassemblerai d'autres en les ajoutant à lui, aux siens déjà rassemblés. Dans Ésaïe chapitre 56, Dieu annonçait ce qu'il allait faire avec cette nouvelle alliance. Des deux, n'en faire plus qu'un. Chapitre 57, il nous est dit, au verset 19, « Je ferai naître la louange sur leurs lèvres, je donnerai la paix, oui, la paix à celui qui est loin » et à celui qui est près de l'Éternel. Souvenez-vous qu'à l'époque, ils étaient sous l'alliance juive. Il y a ceux qui étaient près, et puis il y avait vous et moi qui étions loin. Ici, il est dit, je donnerai la paix, et on va revenir sur ce mot paix. Et je les guérirai. Qu'est-ce que c'est que ce mot paix ? Quand on dit la paix, on a l'impression que c'est uniquement le calme. La paix dans l'Ancien Testament, c'est le mot shalom. Alors, tous ceux qui ont vu Rabbi Jacob pensent que c'est juste une salutation qui veut dire bonjour. Pas du tout. Shalom veut dire cessation des hostilités. Plénitude. Tranquillité. Bien-être. Qu'est-ce qu'il dit ici ? Je leur donnerai tout ça. Et prospérité. Et prospérité. La prospérité, à tous égards, dans tes pensées, dans tes relations, dans ton porte-monnaie, se trouve dans le shalom que Dieu a promis à la race humaine tout entière depuis Ésaïe 56. Donc c'est pas un gros mot. C'est pas une invention de Kenneth Copeland ou de Benny Hinn. C'est écrit. Il y a des choses à dire sur le sujet. Mais le concept même de prospérité, de bien-être, de plénitude, de tranquillité, rien ne manque, rien n'est cassé. C'est comme cela qu'on peut traduire shalom en français. Rien ne manque, rien n'est cassé. Mais si rien ne manque, rien ne manque. Oui, mais c'est, il faut le prendre au sens figuré, rien ne me manque dans mon cœur. C'est vrai ? Alors pourquoi tu t'inquiètes quand ton compte est à débit ? Pourquoi tu t'inquiètes quand tu peux pas acheter à tes enfants le jouet qu'ils te réclament parce qu'il faut choisir entre ça et le steak haché ? C'est dans ton cœur. Vous savez, à force de prendre la Bible pour une métaphore, on a eu des résultats très métaphoriques. Mais si Dieu me garantit que dans l'alliance que j'ai avec lui aujourd'hui, il y a le shalom, alors il y a la prospérité qui est incluse. Et le bien-être, et la tranquillité, et la cessation des hostilités. Vous comprenez ? Éphésiens chapitre 1, au verset 3, voilà ce que c'est que cette nouvelle alliance. Béni soit le Dieu, je fais une parenthèse, la plupart du Nouveau Testament et des Épîtres ont été écrites par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, nous savons que c'était quelqu'un qui était érudit dans l'Ancien Testament. Il pratiquait la loi de manière irréprochable, mais il était un puits de connaissances concernant l'ancienne alliance. Ce même apôtre Paul a eu une rencontre pour le moins percutante avec le Seigneur et il nous est dit que Dieu l'a enseigné par des révélations. Jésus l'a enseigné directement. Il n'est pas le seul à avoir vu Jésus. On voit que les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont vu Jésus. On voit que beaucoup de disciples, Jésus s'est manifesté à eux après la résurrection. On voit qu'il est resté avec eux 40 jours. Et d'autres personnes de nos contemporains ont eu des visions de Jésus également. Là encore, c'est scriptureur. Cet apôtre Paul a passé sa vie à essayer d'expliquer aux gens ce que c'est que cette nouvelle alliance, ce que c'est que ce futur glorieux qui nous attend, ce que nous pouvons avoir dès aujourd'hui. Il nous a dit qu'à un moment donné, il est monté au ciel, il ne savait même plus s'il était dans son corps ou hors de son corps. Et quand il a fait cette expérience-là, il a vu et entendu des choses, il nous a dit « c'est indicible ». Il va falloir maintenant que j'essaye de cravacher pour pouvoir expliquer de retour sur Terre aux humains, dont je fais partie, ce que j'ai vu et entendu. Parce que les évangiles nous décrivent le sacrifice et la résurrection de Christ du point de vue humain, ce que les cinq sens pouvaient percevoir. Mais Paul, lui, a eu la mission d'expliquer, maintenant voilà dans le spirituel ce qui s'est passé. Voilà ce que c'est que cette nouvelle alliance, voilà ce que c'est que cette rédemption dans le spirituel et comment ça se manifeste dans le naturel. Et c'est pour ça qu'il lui a fallu pas mal d'écrits pour essayer de nous expliquer les choses. Et il le fait notamment ici dans Éphésiens 1, 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction. » Ça fait trois fois béni. Ça peut paraître un peu lourd dans le style. Mais c'est que Paul veut marteler quelque chose là. Dans cette alliance, dans ce shalom, dans cette prospérité, dans ces promesses, il y a la bénédiction. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Ce qui veut dire que cette nouvelle alliance qui nous rend saints et sans défaut, nous, non-juifs, devant Dieu, avait été décidé par Dieu avant la création du monde, pas après le mont Sinaï. Ça faisait partie de son plan dès l'origine. Voilà la véritable alliance qu'il voulait faire, le véritable rachat qu'il voulait faire. Il nous a, dans son amour, prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Dis-moi, est-ce que tu as passé un contrat avec tes enfants avant qu'ils aient 14 ans et qu'il s'agisse de faire la vaisselle et je parle, quand ils sont nés, est-ce que tu as passé un contrat avec eux? Non. Est-ce que ton amour pour eux dépend d'un contrat? Non. Est-ce qu'ils se sont engagés à faire quoi que ce soit pour que tu les aimes et que tu prennes soin d'eux et que tu les bénisses? Non. Les premières nuits, ce serait même plutôt l'inverse si on écoutait notre chair. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs. Donc tu vois que l'alliance, le plan de Dieu à l'origine, n'était pas fondé sur la réciprocité. Il n'était pas fondé sur ce que nous pouvions faire, ce que nous allions devoir faire, accomplir, obéir. C'est pas ça. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Pourquoi ? Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Les gens se posent parfois la question, moi je me la posais avant, mais pourquoi Dieu a créé l'homme ? Est-ce qu'il avait besoin de nous finalement ? Est-ce qu'il avait besoin de s'enquiquiner avec tout ça ? Est-ce qu'il lui manquait quelque chose ? Non. Mais j'ai entendu un prédicateur un jour dire « Tu sais, quand tu es amour, c'est très difficile de ne pas pouvoir donner ton amour. Quand tu veux aimer quelqu'un et que ce quelqu'un ne veut pas de toi ou te rejette ou qu'il n'y a personne autour, c'est très difficile quand c'est ta nature de vouloir aimer. Dieu nous a créés pour pouvoir nous aimer. Et il nous a créés parce qu'il savait qu'en contrepartie, fort de cet amour, fort de ce shalom qui allait venir, de ce bien-être, de cette plénitude, de cette prospérité, de cette tranquillité, nous allions le célébrer. Célébrer quoi ? Sa terreur ? Ses éclairs ? Non, sa grâce. Sa grâce. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, si vraiment tu la vis, elle doit impacter tellement de domaines dans ta vie que ta réaction naturelle, c'est juste de sauter de joie et de bénir ton Dieu. Voilà pourquoi il nous a créés. En lui, par son sang, il est question de l'alliance, mes amis, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Pourquoi ? Parce que tes fautes te plaçaient sous le régime de la culpabilité et de la condamnation. Et si tu es sous le régime de la culpabilité et de la condamnation, tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas te la donner ? Non, parce que tu t'estimes pas digne de la recevoir. Il a fallu qu'une bonne fois pour toutes, ils disent « J'ai réglé le problème du péché, arrête d'avoir les yeux là-dessus. » C'est effacé. Discussion très intéressante avec des amis juifs avant-hier. Et leur réaction a été spontanée. C'est cool votre alliance, hein ? Votre système de croyance, il me branche bien, moi, hein ? J'ai dit, ouais, t'as tout compris. Et il y en a une qui me dit, parce que nous, c'est quand même beaucoup basé sur la culpabilité. C'était le but. Et ça ne s'arrête pas là, cette grâce. Dieu nous l'a accordée avec abondance. En toute sagesse et intelligence, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution quand le moment serait vraiment venu. Je suis au verset 10, camarades. À savoir, de tout réunir sous l'autorité du Machiav, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Verset 11. En lui, nous avons été désignés comme quoi ? Héritiers. Héritiers. Un héritier, ça hérite. Soit des dettes, mais grâce à Dieu en France, on peut refuser dans ces cas-là. On n'est pas obligé d'accepter une succession déficitaire. Petit conseil gratuit. Mais en Dieu, il n'y a pas de dette. Héritier. Si tu prends ce verset comme une métaphore, tu auras des résultats métaphoriques. Mais si tu prends ce verset au pied de la lettre, alors tu es héritier de Dieu, de tout ce qu'il possède. Un autre verset, je ne sais pas si on aura le temps de le voir, nous dit que lui qui ne nous a pas refusé, qui n'a pas épargné son fils, c'est-à-dire ce qu'il avait de plus précieux, lequel d'entre nous n'accepterait pas de vider son compte en banque si ça pouvait ramener un fils otage, décédé, rebelle, on donnerait tout. On ferait pas les comptes. Il est dit, il n'a pas épargné son propre fils. Comment pourrait-il nous refuser quoi que ce soit avec lui ? Héritier, ayant été prédestiné suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. C'est-à-dire, pour faire clair, Dieu fait ce qu'il veut. Prédestiné à quoi ? Pour servir à célébrer sa gloire. Nous qui avons par avance espéré dans le Messie, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru. Je précise une chose. Sauve, en grec, c'est sozo. Et sozo, c'est shalom. Plénitude, délivré du danger, mis à l'écart, sauvé, guéri. Rien ne te manque, rien n'est cassé. Donc quand on dit que l'évangile nous sauve, oui, il nous sauve des flammes de l'enfer. Gloire à Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Et si tu penses que ça s'arrête là, ça s'arrêtera là. Mais si tu acceptes de faire abstraction de ce que les autres pensent, et de dire, je vais prendre la Bible au pied de la lettre maintenant. Et quand il y a écrit que je suis héritier de Dieu, je suis héritier de Dieu. Et quand il est dit, oui, mais qui vont hériter du salut, on va le voir dans Hébreu. Oui, mais il nous est dit aussi que le salut se manifeste dès à présent. Alors si tu prends ça au pied de la lettre, tu vas commencer à voir les résultats de Dieu dans ta vie. Mais on n'a pas cru ce qui était écrit. On en a fait une abstraction. Oui, oui, qui vont hériter, qui vont hériter. Penchons-nous sur les mots. Ils ne sont pas écrits pour rien. Paul a vu des choses. Et lorsqu'il est revenu, il a voulu nous les expliquer en disant, mais hé, nous sommes héritiers, mes amis. À partir de quand est-ce qu'on hérite ? À partir du décès. À partir du décès. Dans Hébreux, nous voyons que l'ancienne alliance avait été fondée sur le sang d'un animal. Il y avait eu une mort là, celui d'un animal. La nouvelle alliance est fondée sur le sang de quelqu'un qui est mort également, Jésus-Christ. Il y a eu décès. Et notre héritage peut commencer dès à présent. Je vous invite à réécouter, à méditer, à lire les Écritures et à dire Saint-Esprit, Éphésiens 1,15. Non, attends, on va aller jusqu'au bout de ça. vous avez l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est la preuve que tout ce que Dieu a annoncé était vrai. C'est le gage de notre héritage, verset 14. Étymologiquement, le gage de notre héritage, ça veut dire c'est un acompte qui a pour but de te prouver que tout le reste va arriver. Je m'engage en te laissant un acompte. C'est pas des blagues. Voilà, je te prouve. C'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. En attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Verset 17. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Je prie. Donc, ce dont nous venons de parler s'accompagne de la prière. Pourquoi ? Pour forcer la main à Dieu ? Non. Pour quelle raison ? Pour qu'il illumine les yeux de notre cœur et que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est tellement grand, c'est tellement à l'opposé de ce que le monde dans lequel on vit nous dit, à l'opposé de l'éducation que nous recevons, à l'opposé de la façon dont fonctionne cette planète et dont elle a toujours fonctionné, qu'il faut que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la, lisez comme moi, richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Quelle est quoi ? La richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Est-ce que tu acceptes de croire ce qui est écrit ou pas ? La richesse de son glorieux héritage. Vous venez avec moi en Belgique ? Les gens ne lisent pas. Et quand ils lisent, vous savez quoi ? Ils ne croient pas. C'est aussi simple que ça. Ils ne croient pas. Ils n'acceptent pas de croire. Nous n'acceptons pas de croire. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on dise... J'en ai marre, si c'est écrit, c'est vrai. Si ça marche pour les autres, ça doit marcher pour moi. Ou alors tout ça n'est qu'une gigantesque escroquerie, je me suis fait avoir comme des centaines de milliers de gens à travers le monde, et... Oui mais quoi ? Et c'est des centaines de milliers de menteurs alors ? Tous ceux qui disent que ça fonctionne pour eux, tous ceux qui ont vu, qui a vu la main de Dieu se manifester dans ses finances, qui a vu la main de Dieu se manifester dans ses relations, qui a vu la main de Dieu se manifester dans sa guérison, Dieu est vivant, il agit. Mais il nous faut renouveler nos pensées. Il nous faut accepter de croire. Il nous faut demander au Père un esprit de sagesse et de révélation. Seigneur, donne-moi cet esprit. Seigneur, je te remercie pour cet esprit. Tu es celui qui illumine les yeux de mon cœur. Tu sais que Dieu ne va pas t'amener de 0 à 100 du jour au lendemain. C'est progressif. Si tu es au niveau 5, prie-le pour passer au niveau 7 ou 6. Seigneur, aujourd'hui, tu ouvres mes yeux à une plus grande compréhension de la rédemption. Parce que c'est de ça dont il s'agit. La puissance du rachat, la puissance de ce que Jésus a fait pour nous, cette nouvelle alliance, à quel point est-elle grande ? À quel point est-elle puissante ? À quel point est-elle bénéfique ? Est-elle fondée sur mes mérites ? Nous avons besoin de renouveler nos pensées à ce sujet. Et nous le faisons notamment parce que Dieu nous montre des choses. Il ouvre nos yeux à certaines choses. Et à ce moment-là, tu dis, Seigneur, il va me falloir ton aide, là. Parce que je n'ai pas été éduqué comme ça. Ça va ? Vous êtes avec moi ? On continue ? Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4. Il nous a dit au verset 7, vous connaissez ce verset ? Peut-être. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Tu es aussi héritier par la grâce de Dieu, c'est ce qui est écrit dans cette version-là. Tu n'es plus esclave, tu n'es plus étranger, Tu ne restes plus sur le parvis. Tu es fils. Tu sais quoi ? Tu n'es même plus seulement admis à rentrer pour adorer Dieu. Non, tu es fils. Dans un des trois fichiers PDF qui a été envoyé à cette dame, l'auteur de l'article, en l'occurrence, il tapait sur les Copeland, et il disait « Oui, il est dit dans tel passage que on peut obtenir les mêmes résultats que Dieu. Rien que ça, dit-il. » Point d'exclamation. C'est-à-dire que l'auteur de cet article n'arrive pas à accepter certaines choses. Non, c'est que Jésus, le Fils de Dieu. Eh ben non. Voilà, pas si on lit la Bible et pas si on décide de croire dans ce qui est écrit. Oui, Jésus est le Fils de Dieu, mais il est écrit « Toi, tu es fils de Dieu maintenant. » Tu es fille de Dieu maintenant. Donc si tu continues à voir Jésus comme là-haut perché dans une sphère inaccessible et nous, ici, réduits à un état de séparation ou de distance en tout cas, tu te trompes. Tu te trompes. Tu es en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est en toi maintenant. Paul a dit « C'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. » Il y a un transfert spirituel, mais spirituel ne veut pas dire abstrait. Spirituel ne veut pas dire imaginaire ou théorique. Spirituel, ça veut simplement dire ça s'est fait dans une dimension qui n'est pas encore perceptible avec nos cinq sens. Encore que, quand le Seigneur vient en nous, certains ressentent certaines choses. Une libération, un poids qui s'en va, une joie, une paix. Tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Je sais qu'il faut que ça rentre, hein. Je sais. Réécoutez, lisez les Écritures. J'ai pris le parti de mettre de la couleur dans ma Bible, de m'en servir, non plus comme un sacro-saint livre où on n'avait pas le droit d'écrire quoi que ce soit sous peine de foudroiement immédiat, ou d'excommunication, mais comme un cahier d'études. Et j'ai adopté, avant que ma fille ne fasse sécher complètement le feutre violet, la couleur violette, pour surligner tous les passages qui avaient trait à une promesse, à une alliance, à quoi que ce soit qui concerne mon porte-monnaie. Et le violet s'accumule. Donc ce que je fais le matin, ou ce que je fais quand je regarde mes comptes, parfois, il vaut mieux le faire avant que pendant, mais bon. Je parcours tout ce qui est en violet. Et je me nourris des Écritures qui parlent de ça. Mais tu peux faire la même chose avec la guérison, hein. La couleur verte des pharmaciens, par exemple, se prêterait très bien à des versets sur la guérison. Tu es fils. Au chapitre 3, versets 13 et 14, il nous est dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme qui est pendu au bois est maudit. » Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Tu dis, c'est quoi cette malédiction de la loi ? On le verra plus tard, pas aujourd'hui. Néanmoins, verset 14, « C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, vous lisez comment ? La bénédiction d'Abraham, alors là, c'est un espèce de subjonctif au conditionnel de l'imparfait dans la version Louis II classique, je vais vous le lire en français des gens normaux du 21e siècle. « C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham... » Ah, voilà un personnage dont on n'avait pas parlé jusqu'à présent. Enfin, avant que le pasteur me vole un début de message au moment des offrandes, bien entendu. « Touche aussi la bénédiction, le shalom, la prospérité d'Abraham, on verra ce que c'est, touche aussi les non-juifs. » Je relis. C'est ainsi, c'est-à-dire parce que Christ a été pendu au bois, parce que Christ a été maudit pour nous, parce qu'il est devenu malédiction pour nous, parce qu'il nous a libérés de la malédiction de la loi, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, c'est-à-dire grâce à Jésus-Christ, et une fois que tu es dans cette nouvelle alliance, Dieu ne nous y force pas, on peut décider d'y rentrer, on peut décider de rester dehors. En Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs. Et nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis, c'est-à-dire le gage de notre héritage. Ça fait quand même beaucoup, hein ? Promesse, bénédiction, shalom, prospérité, alliance, héritage. ils ont intérêt à avoir des arguments en face, hein. Verset 17. Voici ce que je veux dire. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est Paul. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi, la loi, survenue 430 ans plus tard, ne peut l'annuler. De quel testament il s'agit ? Le nouveau ? Non. De quoi il parle là ? D'une promesse faite à Abraham. D'une alliance faite à Abraham. Ça s'appelle testament, mais ça pourrait s'appeler alliance. D'ailleurs, dans certaines traductions, ils disent l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, au lieu de Ancien Testament et Nouveau Testament. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Il y avait des promesses, il y avait une bénédiction, on aura l'occasion de voir ça ensemble plus tard. Et dans cette alliance, que Paul appelle testament, parce que nous verrons qu'avec Abraham aussi le sang a coulé, il nous dit que la loi, c'est-à-dire l'alliance sur le mont Sinaï, celle dont on a lu tout à l'heure, qui n'était donc pas la première, cette loi qui est intervenue 430 ans plus tard, elle ne peut pas annuler ce testament et rendre ainsi la promesse sans effet. Ça veut dire que quand Dieu a fait une promesse à Abraham, elle n'a rien à voir avec la loi qui a été donnée sur le Sinaï 430 ans plus tard. C'est pire. C'est que le Sinaï rendu 430 ans plus tard, si tu le pratiques, si tu te fies uniquement dans cette loi-là, ça rend la promesse sans effet. Mais si tu te tournes vers la bénédiction d'Abraham, et on voit quoi ? Que Christ nous l'a rendu accessible. La loi qui est venue après n'a plus rien à voir dans l'équation. Plus rien à voir. En effet, verset 18, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Si je décide de te faire un cadeau, pour te dire ensuite, oui, pardon, je t'ai pas dit, il faut que tu le mérites, hein. C'est plus un cadeau, c'est un salaire. Merci, patron. Mais enfin bon, c'est un salaire, c'est pas un cadeau. L'un, il nous a dit, si l'héritage venait de la loi, du respect, de « il faut que je respecte, il faut que j'obéisse, oui mais je ne mérite pas parce que… » Ça ne serait plus une promesse. Or, c'est une promesse. C'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Mais quand vous avez lu Genèse 12 tout à l'heure, et on le lira plus tard, vous verrez que Dieu a fait des promesses à Abraham qui sont des promesses financières. Pas que. C'était immense ce qu'il lui a promis. Mais dans cela, il y avait le shalom, il y avait la prospérité, il y avait la bénédiction. Rien ne te manquera tant que tu marcheras sur cette terre, ni à toi, ni à tes descendants. Abraham était extrêmement riche. Et il nous est dit ici que Dieu a accordé quoi ? Son argent à Abraham ? Non, sa grâce. C'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Donc, dans la grâce, Abraham, tu dis, ah, la grâce, c'est Jésus-Christ. Non. C'était pour Abraham aussi. Maintenant, si tu veux savoir ce qui t'appartient en Christ, tu peux déjà commencer à regarder ce qui a appartenu à Abraham. Ça te donnera déjà un bon exemple. Est-ce que je vous ai perdu ? CQFD, ce qu'il fallait démontrer. C'est-à-dire que, vous relirez les versets chez vous, mais je suis parti de la fin pour remonter dans le temps, vous avez compris ça. On est parti de la Nouvelle Alliance et on a progressivement commencé à regarder d'où elle vient, qu'est-ce que c'est que cette Nouvelle Alliance, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis maintenant, on arrive sur Abraham. Je continue pour terminer Galates. 17, 18, verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ? Comment ? Par vos œuvres ? Non. Par vos mérites ? Non. Par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Fils de Dieu. Verset 29. Si vous appartenez à Christ, c'est le cas de certains ici, Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Et vous êtes héritier conformément à la promesse. Alors je sais que ça fait un peu un mélange spatio-temporel. Là. On a l'impression d'avoir un pied en Christ et un pied en Abraham. Et j'essaye de comprendre. Mais parce que pour Dieu, tout ça est lié. C'est une seule et même chose. Dans la chronologie humaine, ça a pris des siècles. Mais quand maintenant on prend du recul par rapport à la grande image et qu'on voit les morceaux du puzzle, on dit « Ah !» Donc Abraham et Christ, il y a un lien entre les deux là. Et moi, je suis inclus dans le puzzle. Je relis verset 29. « Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. » Tu savais ça? Tu savais que si tu fais remonter ta généalogie, peut-être que tu ne verras pas Abraham dans tes ascendants biologiques, mais ce n'est pas de biologie dont il est question ici. C'est d'une réalité qui est dans l'esprit et qui peut se manifester ici, dans cette dimension, qui doit se manifester ici, dans cette dimension. Si tu appartiens à Christ, tu es de la descendance d'Abraham. Et tu es donc héritier conformément à la promesse. J'essaie pas de vous remplir le crâne. J'essaie juste de vous peindre une image et que vous repartiez avec. Et ensuite, vous replongez dans les Écritures. Vous prenez un feutre violet, je vous recommande le violet. Hein. Le violet, c'est la couleur royale. Je ne connais pas de roi qui va faire un crédit. Ça ne veut pas dire que je suis contre les crédits. Mais je veux dire par là, quand on imagine les rois et les reines de ce monde, on n'a pas l'impression qu'il manque de quoi que ce soit. Et vous notez, vous notez, vous notez. Et ensuite, vous relisez, vous méditez. Jusqu'à ce que la révélation de Dieu surpasse votre éducation. Vous comprenez? La bénédiction d'Abraham touche les non-juifs. Et si j'appartiens à Christ, je suis la descendance d'Abraham. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà du lourd. Donc si vous recevez 3 fichiers PDF, ne les jetez pas à la poubelle, lisez-les. Et si ça vous secoue un peu, c'est très bien, ça va vous amener à vous poser la question. En quoi est-ce que je crois et pourquoi est-ce que j'y crois? Que disent les Écritures? Que disent les Écritures? Amen. Père, non, non, si vous voulez. Merci. Père, alléluia Seigneur, c'est à toi que reviennent les applaudissements Seigneur. Ce que tu as fait est tellement grand qu'il va nous falloir ton aide pour le comprendre. Qu'il va nous falloir ton aide pour aller au-delà de ce que nous avons cru jusqu'à présent. C'est tellement grand qu'il va nous falloir ton aide pour que nous l'acceptions, que nous le recevions, pour que nous te voyions tel que tu es, pour que nous voyions le sacrifice de Christ à la croix, pas comme une catastrophe, pas comme une erreur de justice, comme une alliance qui nous ouvre la porte de ta grâce, que tu répands sur nous avec abondance, qui fait de nous des héritiers, qui fait de nous des fils et des filles, qui n'ont pas à demander la permission pour se servir dans le frigo. Merci Seigneur. Seigneur, je te demande un esprit de sagesse et de révélation pour nous, afin que nous te connaissions. Illumine les yeux de notre cœur, Seigneur. Merci Saint-Esprit, c'est toi qui le fais. C'est toi les prémices de notre héritage. Parce que sans toi et sans ta révélation, on ne peut pas se saisir de cet héritage. Merci Seigneur. Merci pour les changements qui surviennent, Seigneur. Au fur et à mesure que la révélation va commencer à briller dans les cœurs, Seigneur, il y a des changements qui vont avoir lieu. Et c'est comme ça aussi qu'on va manifester, Seigneur, qu'on va proclamer, qu'on va partager, qu'on va témoigner, qu'on va changer notre entourage. Merci mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen.